du Mali.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Lundi 6 septembre 2021, il est 18h à Bamako, même heure à Bafoulabé. Auditeurs, auditrices de Studio Tamani, bienvenue à tous. Voici les titres de ce journal. Le syndicat de la santé et de l'action sociale est en grève de 3 jours depuis ce lundi matin. Au centre des revendications, le retour d'un de leurs camarades muté dans un autre service à cause de ses activités syndicales. Goodluck Jonathan poursuit sa visite au Mali. Le chef de la délégation de la CEDEAO a rencontré ce lundi le Premier ministre et quelques membres du gouvernement. Objectif, faire le point sur le processus de la transition. Bientôt, une solution pour lutter contre le paludisme. Après 2 ans d'études, un vaccin verra bientôt le jour. L'annonce est faite par le programme de lutte contre le paludisme au Mali. Le développement de ces titres dans un instant à la présentation Adama Amadou Haidara. Comme annoncé dans le sommaire, le syndicat de la santé et de l'action sociale a entamé une grève de 72 heures. Ce lundi 6 septembre, les grévistes exigent entre autres le retour d'un de leurs camarades muté dans un autre service à cause de ses activités syndicales. Le mouvement est observé à l'hôpital du Mali, au CHU Pongé et Gabriel Touré. Dans ces deux derniers hôpitaux, la cessation du travail est marquée par une dissidence qui a refusé d'observer le mot d'ordre. Notre reporter Fatih Attar a fait le tour de ces établissements suivant son reportage.
À l'hôpital Pongé, les syndicats affirment que la grève est effective et le mouvement se poursuit normalement. Docteur Guida Landouré, secrétaire adjoint du syndicat.
La grève, elle va continuer jusqu'au mercredi. Et quand ça n'aboutit pas, on enchaîne avec 5 jours la semaine prochaine.
Du côté de l'hôpital Gabriel Touré aussi, la grève suit son cours selon Docteur Amadou Maïga, membre du secrétariat aux revendications du comité syndical.
Il n'y a pas de travail parce que le syndicat majoritaire, c'est le syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion féminine. Il y a le service minimum. Tout ce qui nécessite une prise en charge urgente, nous le faisons pour ne pas entacher l'image du syndicat.
Cependant, une partie des travailleurs de ces CHI s'est désolidarisée du syndicat. Elle dit ne pas se reconnaître dans les mouvements. Diawara Seriba est l'un des responsables du collectif des travailleurs de l'hôpital Gabriel Touré.
Nous, on n'est pas en grève et ceux qui veulent travailler sont plus nombreux aujourd'hui que ceux qui ne veulent pas travailler. Et surtout que c'est une grève à cause d'un individu.
En attendant, les usagers déplorent la fréquence et l'intensité des grèves dans le secteur de la santé. Ils souhaitent un dénouement erré de la situation.
Notre report Le reporter Fatih Attar a tendu son micro à des patients et leurs accompagnateurs. Ceux-ci ne cachent pas leurs inquiétudes face aux conséquences que pourrait engendrer cette grève. Ils appellent les grévistes et les médecins à trouver un compromis. Écoutons-les.
On est très... La grève des agents de santé est loin d'être bonne. C'est une catastrophe pour les malades. Les grèves des médecins font de plus en plus de morts.
Il faut que les autorités mettent les médecins dans leurs droits. C'est inacceptable que les agents de santé partent en grève.
L'imam est respecté, cela nous réjouit. Mais il faudrait qu'une solution soit trouvée à ce bras de fer qui persiste entre les autorités et les médecins. C'est un grand risque.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Le chef de la délégation Goodluck Jonathan poursuit sa visite au Mali. Dans le cadre du suivi de la transition, il a rencontré ce lundi le Premier ministre et quelques membres du gouvernement. Les échanges ont porté sur le processus de transition. Le représentant de la CEDEAO a encouragé les autorités au respect des engagements pris. Il devrait aussi discuter avec la société civile et les groupes signataires de l'accord de paix. Mohamedou Samaseko.
Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, dans son discours introductif, a indiqué que cette visite de la CEDEAO intervient quelques jours après la validation par le CNT du plan d'action du gouvernement. Il a mis l'accent sur les 3 piliers de ce plan d'action gouvernemental qui sont la sécurité, la politique et le social. Choguel Kokala Maïga a fait savoir que ce document a été élaboré en un temps record de 6 semaines. Le chef du gouvernement a aussi dit reconnaître que la CEDEAO avait eu raison en 2018 lorsqu'elle demandait au Mali de mettre en place des réformes avant de s'engager dans les échéances électorales. Le chef du gouvernement s'est dit résolument engagé pour relever le défi et répondre aux recommandations de la CEDEAO. Le chef de mission de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, a rappelé l'urgence d'apporter des réponses aux aspirations du peuple. Il a surtout encouragé le gouvernement dans ce sens et l'a félicité pour la libération des anciens dirigeants de la transition, Bandaw et Mokhtar Wane.
La synergie des syndicats de la police a réagi aux multiples déclarations d'indignation suite à la libération extrajudiciaire du commandant de la Forsat. Dans un communiqué, la synergie des syndicats de police dit valoir son droit constitutionnel et dit ne pas comprendre la réaction des magistrats qu'ils accusent d'avoir gardé le silence face à des situations similaires. Les syndicalistes appellent à un rassemblement ce mardi 7 septembre 2021 au JMS. Suite au coup d'État perpétré en Guinée, certains s'inquiètent de son incidence sur l'économie malienne. Cet impact est minime, estiment certains économistes. Selon Ibrahim Mariko, la différence sur le plan monétaire épargne un peu le pays. Cependant, il suggère tout de même une surveillance vigilante des intérêts communs. On l'écoute.
La Guinée ne fait pas partie de notre zone monétaire de l'UEMOA, donc on n'utilise pas les mêmes monnaies. La Guinée fait partie de la zone de la CEDEAO, donc si nous avons un certain nombre de critères macroéconomiques que nous échangeons ensemble, les critères de convergence. Mais le point le plus important vraiment qui peut être un peu moins sur notre économie, c'est qu'ils ont fait la réouverture vraiment des frontières terrestres, donc ce qui fait que les échanges vraiment vont toujours continuer. Donc on peut dire globalement que ce qui s'est passé hier aura vraiment très peu d'impact vraiment sur l'économie. Donc, il faut le dire, il y a un représentant de la Guinée qui est là, un consulat, une ambassade. C'est pour vraiment pour protéger vraiment nos intérêts et surveiller beaucoup nos frontières parce que n'oublions pas que le Mali aussi a une période de transition, une période de crise.
Un vaccin contre le paludisme verra bientôt le jour au Mali. L'annonce a été faite par le Programme national de lutte contre le paludisme. Cette nouvelle stratégie de lutte contre cette maladie est le fruit d'une étude menée pendant 2 ans. Les recherches sur ce projet de vaccination ont été conduites par le Centre de recherche et de formation sur le paludisme au Mali en collaboration avec l'Institut de recherche en sciences de la santé au Burkina Faso. Les résultats de cette étude ont été présentés ce lundi 6 septembre. À Bamako. Notre reporter Moussa Malé Sissoko était à la rencontre.
Cette étude a été effectuée sur 6000 enfants âgés de 5 à 17 mois au Mali et au Burkina Faso entre 2017-2019. Professeur Alassane Diko est le chef de l'unité de recherche clinique de Bougouni et de Wolesebougou.
C'est un vaccin qui est fabriqué par un laboratoire qui s'appelle GSK. Plusieurs scientifiques de différents groupes hors de l'Afrique travaillent pour aider à évaluer ce vaccin et montrer si ce vaccin peut être un outil additionnel pour la lutte contre le paludisme. Donc nous avons évalué ce vaccin-là. Nous avons fait le travail en collaboration avec nos partenaires du Royaume-Uni, notamment l'école de santé publique de Londres. Et nous pensons que ça va révolutionner et ça va avoir un impact important dans la lutte contre le paludisme.
L'arrivée d'un vaccin contre le paludisme est une lueur d'espoir dans la lutte contre la maladie, déclare Dr Idrissa Cissé. Pour le coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme au Mali, des efforts devront être fournis par le gouvernement en vue de faciliter l'accès à ce vaccin.
C'est très difficile de dire à quand, mais ce qu'il y a dit, l'OMS est en train de travailler activement sur ce résultat. Maintenant, l'OMS va voir comment ces stratégies peuvent être affinées pour rendre disponibles. Et donc, quand ils vont définir les normes, nous allons travailler de manière à intégrer dans notre politique.
Les résultats de cette étude indiquent qu'au Mali, 73% des décès sont liés au paludisme.
Plus de 2000 sont au Mali depuis 2012 dans le cadre d'une assistance sociale. Ces ONG se disent engagées en faveur des populations les plus démunies. Cependant, certains observateurs estiment leur effort limité face aux besoins des communautés. Cela s'explique par les cas de malversation opérés dans le milieu par certains acteurs. Et c'est dans ce contexte qu'a été célébrée hier dimanche 5 septembre 2021 la Journée internationale de la charité. Le point avec Aboubakrine Ag Mohamedine Yattara.
Secourir son prochain par des biens, c'est ainsi que qualifient les traditionalistes religieux la charité. Pour les organisations non gouvernementales, elles évoluent dans le même sens, mais peut-être différemment. Ibrahim Kontao, directeur général de l'ONG El Farou.
Nous travaillons sur des domaines, la santé, l'éducation, l'hydraulique. Donc l'ONG El Farou, actuellement, dans les 3700 orphelins, qui nous coûtent à peu près 1 milliard de francs CFA par an. hein. L'État même doit savoir ce que nous faisons. Les partenaires doivent savoir ce que nous faisons.
Du point de vue des observateurs, cette aide apportée par ces ONG ne se fait pas dans les règles. Ils dénoncent un manque de transparence dans la gestion de fonds destinés aux plus démunis. Docteur Yacouba Dogoni, sociologue.
Et souvent, dans la plupart des cas, nous avons observé que ces ONG ne touchent pas la population en tant que telle parce qu'il y a beaucoup de ces fonds qui sont destinés par les affaires de mise en œuvre. C'est l'État qui doit faire de telle sorte que ces ONG puissent inscrire leur agenda dans son agenda de lutte contre la pauvreté.
La journée de la charité célébrée hier dimanche 5 septembre intervient dans un contexte où plus de 5 millions de personnes vivent en insécurité alimentaire au Mali.
Zéro but partout, c'est le score final du match Ouganda-Mali joué cet après-midi. La rencontre s'inscrivait dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de football Qatar 2022. Il faut rappeler qu'en première journée, les Aigles se sont imposés jeudi dernier devant le Rwanda, 1-0.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Dans la région à Yorosso, un commerçant de bétail et éleveur de Boura a été enlevé ce samedi par des hommes armés inconnus. Selon les informations rapportées par les habitants, la victime causait chez un vendeur de viande quand deux hommes armés sont arrivés et l'ont contraint à les suivre. Les raisons de cet enlèvement ne sont pas encore connues, mais les populations signalent une forte présence d'hommes armés dans la localité. Découvert à Bafoulabé, le corps sans vie d'un homme d'environ 38 ans a été retrouvé hier dimanche dans la brousse du village Sadioya. Selon des sources locales, il serait parti à la chasse depuis le samedi. Des passants l'ont retrouvé mort, la tête fracassée contre une pierre et près de lui son fusil et un gibier. Des sources supposent qu'il serait tombé du haut d'une colline. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Au Mali, le programme mondial PAM vient de lancer son programme de protection sociale en faveur des couches vulnérables affectées par les effets économiques de la COVID-19. Les bénéficiaires de cette assistance ont été identifiés dans 19 communes dans les régions de Koulikoro, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Menaka. L'initiative vise à apporter durant 6 mois, de juillet à décembre, des transferts monétaires à près de 182 000 personnes vulnérables. Koku Amouzou est le responsable de la section protection sociale au niveau du PAM. Il répond aux questions de Sekou Gadjigo.
L'objectif donc de cette assistance des filets sociaux, c'est justement donc d'aider les ménages vulnérables à pouvoir accéder à une alimentation. En même temps également, il y a une sous-composante sur tout ce qui est service complémentaire nutritionnel. Pour cela, il est prévu tout ce qui est formation ou orientation sur les pratiques d'allaitement ou autres de démonstration culinaire.
Qui sont ces bénéficiaires?
Des ménages vulnérables, pauvres, qui ont été affectés par les effets socio-économiques de la COVID. Il faut dire que cette intervention de protection sociale s'inscrit dans le cadre de la réponse du gouvernement pour faire face aux effets socio-économiques de la COVID. Et pour ce faire, dans les 19 communes où nous on intervient, il faut dire que ces 19 communes sont localisées donc dans les régions de Koulikoro, Ségou, Mopti, Gao et Tombouctou, donc Menaka également. Dans ces communes, nous avons, avec notre partenaire gouvernemental Digis et Mediri et la DNPSS, on a donc fait une des enquêtes RSU, donc registre certifié, auprès de l'ensemble de la population de ces communes. Au total, environ 85 000 ménages ont été enquêtés. Et à partir de là, on a défini les critères de vulnérabilité. La plupart des critères de vulnérabilité concernent, par exemple, les catégories démographiques, en présence d'enfants de moins de 2 ans, de femmes enceintes ou allaitantes, de personnes en situation de handicap. On a regardé également les caractéristiques du logement, puisque nous avons identifié avec qui on a contracté au niveau de ces zones.
Quelles sont les modalités d'assistance?
Pour l'instant, nous allons utiliser donc les coupons, qui est la modalité la plus répandue, la plus utilisée par le PAM, compte tenu du contexte aussi des zones où on intervient. Pour cette intervention, ce sont des coupons monétaires de valeur. Donc, on définit une valeur de 15 000 francs à remettre à chaque ménage par mois. En d'autres termes, nos bénéficiaires vont recevoir donc des coupons de valeur de 15 000 francs par mois. Et ceci pendant les 4 mois de la période de soudure, donc où on est actuellement, donc jusqu'en octobre, et les deux mois novembre et décembre également.
Comment la distribution va se faire?
Nous allons passer par des ONG. La plupart sont des ONG locales qui ont des acceptances au niveau communautaire avec qui le PAM a des contrats. Et donc, ce sont ces ONG qui vont organiser les sites de distribution et donc vont distribuer les coupons à ces bénéficiaires. Et donc, ces coupons seront échangés contre des denrées alimentaires que des commerçants avec qui nous avons des contrats vont justement servir les rations ou bien vendre entre guillemets donc la nourriture à ces bénéficiaires qui vont donc payer avec le coupon que le PAM leur a donné.
Quelles sont les dispositions prises par le PAM pour limiter la propagation de la COVID-19?
Le volume de ménages ou de bénéficiaires sur site a été réduit drastiquement pour être conformé aussi aux lois du pays, avec également des dispositifs, des points de lavage des mains, bien entendu les masques ou autres également qu'on distribue à nos bénéficiaires.